5, vous écoutez France Bleu Isère et pour cette matinale spéciale logement, on va parler notamment d'encadrement des loyers avec votre invitée Théo Hetch.
Cécile Martinet-Périnetti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, directrice de l'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Alors l'encadrement des loyers à Grenoble, on connaît désormais le périmètre, 21 communes de la métropole de Grenoble. Des loyers qui seront limités à combien? Est-ce qu'on le sait déjà ou pas encore?
Non, on ne le sait pas encore au jour d'aujourd'hui, mais il faut peut-être faire un petit peu d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plus de 7 ans qu'a été mis en place sur l'agglomération un observatoire des loyers. Mm-hmm. Ces observatoires des loyers, c'est des observatoires qui ont une méthode scientifique, qui récoltent des données, qui ont pour vocation d'être représentatives du parc. C'est-à-dire que c'est au niveau national qu'on leur dit qu'il y a tant de T1, tant de T2, etc., oui. Meublés, pas meublés. Donc il y a une observation, une récolte de ces données, elles sont travaillées et il en ressort des prix pratiqués sur le territoire.
Et est-ce qu'il en ressort aussi une hausse importante des loyers ces dernières années quelle est l'évolution, disons? Alors, quelle est la tendance?
Si vous voulez, c'est pas une histoire de hausse ou de baisse, il y a des données qui sont produites par l'Observatoire des loyers. Mmh. Sur la base de ces données, Grenoble Métropole a saisi le ministère du Logement en demandant la possibilité de mettre en place un encadrement sur son secteur géographique. C'est au vu de ces données-là que le ministère a pu constater les critères qui permettaient d'appliquer cet encadrement, qui sont le fait que il y a une grosse différence de niveau de loyer moyen pratiqué entre le parc public et le parc privé. D'accord. Qu'il y a une baisse de la production, donc le contexte fait que il paraît important d'encadrer les loyers. Et le montant final du loyer de référence qui va être posé, c'est un arrêté préfectoral. Donc c'est cet arrêté préfectoral qu'on attend pour la fin de l'année.
Les contours précis.
Qui va définir les contours précis. Et il n'y aura pas un prix, mais il y aura un prix de référence par secteur et par type de logement et par date de construction. Donc il va s'adapter à l'état, au parc, si vous voulez.
Est-ce qu'on prend en compte aussi les personnes, le nombre de personnes privées de logement? Est-ce qu'on a une idée aussi des personnes privées de logement en Isère aujourd'hui?
Alors c'est pas du tout lié au nombre de personnes. D'accord. Qui sont en attente de logement social. C'est bien une analyse du prix et du différence entre parc public, parc privé et les prix moyens pratiqués sur le territoire. Ça n'a rien à voir, même si on sait que Grenoble, la peu métropole, il y a une tension sur le marché, sur la demande de logement social. C'est pas ce qui rentre en ligne de compte. Et l'encadrement des loyers ne va bien s'appliquer que sur le parc privé.
On parle de la métropole de Grenoble, mais le contexte, la tendance est assez générale. On a par exemple la FNAIM du Nord-Isère qui parle d'une hausse de 7% des loyers sur les 5 dernières années. Donc la hausse est assez générale, c'est ce que vous observez, j'imagine.
Alors, la FNAIM Nord-Isère, je ne sais pas si elle se base sur les chiffres d'un observatoire des loyers ou de leur propre observatoire des loyers, mais si on regarde les dernières publications de l'observatoire des loyers de la région grenobloise, oui, il y a eu une légère hausse.
D'accord.
Il y a aussi plein de contextes qui viennent percuter le contexte du marché locatif. Il y a le problème des passoires énergétiques, du gel des loyers, donc il y a le contexte aussi fait que c'est compliqué un petit peu. Il y a une baisse de la production de logements parce que, comme vous l'avez dit en début, le marché de l'immobilier est un peu perturbé en ce moment. Donc le fait qu'il n'y a pas de nouveaux logements qui arrivent, ça bloque aussi le marché du locatif parce que vous n'avez pas de personnes qui sortent pour devenir accédants et qui libèrent du parc locatif. Donc on est effectivement dans un contexte compliqué au niveau de l'immobilier.
Vous avez parlé des passoires thermiques, c'est effectivement l'actualité. On va avoir des températures très fortes ce week-end, notamment à Grenoble, 29 degrés déjà. J'imagine que ça fait peur à un certain nombre d'auditeurs pour cet été. Et ça repose la question des passoires thermiques, de la rénovation thermique. Il y a eu un allègement récemment du diagnostic énergie. Est-ce qu'on peut faire le point rapidement là-dessus?
Si vous voulez, il y a un calendrier qui a été mis en place pour que progressivement, il y ait une réhabilitation des logements qui soit faite.
Et une interdiction progressive de l'allocation des logements les pires.
Énergivores, voilà c'est
F ça. F et G progressivement.
C'est ça. Et déjà là, depuis le 1er janvier de cette année, les logements qui ont une consommation supérieure à 450 kWh sont considérés comme des logements non décents.
Donc léger. C'est ça dans le dans
alors c'est 450 kWh, on n'est encore pas au niveau du DPE.
D'accord.
Les DPE, ça rentre en compte à partir du 1er janvier 2025, où les logements classés effectivement par le DPE-G seront considérés comme non décents. Là, on n'est pas sur une classe de DPE, mais sur une consommation énergétique. Mmh. Et donc déjà là, depuis le début de l'année, il y a des gens qui vivent dans ces logements qui sont énergivores et qui peuvent interpeller leur propriétaire en leur disant « le logement dans lequel je vis n'est pas décent, donc veuillez faire les travaux nécessaires pour que mon logement rentre dans les critères de la décence ». Et c'est très important parce que par exemple, un logement qui n'est pas décent. On sait très bien que la plupart du temps, les personnes qui vivent dans ces logements-là, ce sont des gens qui ont de petits revenus. Oui. Autrement, ils subiraient pas ça, ils déménageraient et partiraient ailleurs. Donc, ce sont des gens qui, très souvent, sont éligibles aux aides de la location logement, de la caisse d'allocation familiale ou de la MSA. Et un logement qui est qualifié de non décent n'est pas éligible à ces aides.
D'accord.
Donc, c'est quand même très, très important. Sachant que, je vous vois me dire au secours, on n'a pas droit aux aides au logement. Là, ce n'est pas le locataire qui est pénalisé. C'est très coercitif vis-à-vis du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire ne percevra pas les aides au logement. Elles seront conservées par la caisse d'allocation familiale, elles lui sont restituées quand il aura fait les travaux. Donc on est vraiment
incitatif.
Voilà, c'est ça. Peut-être coercitif quand même, parce que oui. Si le propriétaire dans les 18 mois ne fait pas les travaux, il perdra la location logement. Donc pour être très clair pour les auditeurs, on a par exemple un loyer de 200 euros. Le locataire perçoit 100 euros de la caisse d'allocation familiale et verse lui de ses propres deniers 100 euros. Eh bien, pendant la période. Une fois, alors, c'est pas le locataire qui décide que son logement est non décent. Hein. Il y a une qualification du logement qui est faite par un professionnel. Le logement n'est pas décent. Eh bien, le propriétaire...
La CAF conserve les 100 euros.
Voilà, va recevoir un courrier de la caisse d'allocation familiale en lui disant « Votre logement n'est pas décent, veuillez faire les travaux. Mmh. » En attendant, le locataire paie les 100 euros qu'il paye de sa poche tout le temps. Mais les 100 euros de la caisse d'allocation familiale sont conservés à la caisse d'allocation familiale. Et je pense qu'il est important de dire... à vos auditeurs qu'il existe une plateforme qui s'appelle Histologe, sur laquelle on peut se signaler si on estime que son logement n'est pas dans les normes et dans les règles de la décence. Et après, dans le département de l'Isère, si vous voulez, les personnes...
Pour alerter.
Ça alerte, et après on prend contact avec le locataire et on l'accompagne pour tirer les fils, savoir si on est vraiment sur du logement qui est non décent ou sur un des problèmes de dégâts des eaux, de vétusté. Si c'est peut-être plus important que de la non-décence, ça peut-être de la mise en sécurité, de l'insalubrité. Et il y a des liens qui sont faits, par exemple, avec l'Agence régionale de santé. Donc, il y a ce dispositif, on peut se signaler, c'est un dispositif internet, Histologe.
Et on mettra toutes ces références sur francebleu.fr. On parle logement ce matin, Mathieu.
Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour nous faire part de votre expérience aussi, peut-être si ce prix des logements vous a complexifié la tâche pour obtenir un logement. Voilà, venez nous en parler au 04 76 40 46 45 45, là, pendant encore quelques minutes. Ne perdez pas de temps pour pouvoir nous apporter votre témoignage sur la page Facebook de France Bleu Isère. On a bien sûr cet avis sur cette question. Est-ce que c'est une bonne idée d'encadrer le niveau des loyers?
C'est ça. On vous a posé une question un petit peu plus précise sur le logement et effectivement, tout le monde est plutôt d'accord sur cette question. Vous parliez du prix des loyers. Effectivement, Corinne qui nous dit les prix des loyers sont horriblement élevés et elle est donc... pour évidemment l'encadrement des loyers. Et puis on a Colette aussi qui nous dit que les loyers devraient être effectivement modérés pour que tout le monde puisse se loger.
Appelez-nous 04 76 46 45 45. Après, il y a la question du prix, il y a aussi la question de ce qu'on doit avoir comme revenu, etc. Bon, venez nous parler de tout ça, même si ça se décale un peu. On vous écoutera avec attention, Théo.
Et notre invitée est la directrice de l'Agence départementale d'information sur le logement, Cécile Martinet-Périnetti. J'aimerais vous faire entendre un témoignage, celui d'Ornella. Elle habite depuis quelques années dans un logement social à Saint-Martin-le-Vinoux, mais elle a vraiment galéré à le trouver, ce logement social. Écoutez.
Ça m'a pris 6 ans d'attente. C'était particulièrement long. Proposer 2-3 logements, mais c'était dans des lieux assez précaires et avec des jeunes à forte fréquentation. On m'a un peu poussée, j'ai refusé quand même. Et ils ont fini par m'en trouver un dernier à Saint-Martin-le-Vinoux, et depuis je suis, et c'est beaucoup mieux.
Là, il y a un vrai problème sur le logement social aujourd'hui. Comment on l'explique, cette situation? Il y a une loi pourtant qui encadre en principe, qui oblige les communes à avoir 20% de logement social. Pas mal de communes en Isère ne le respectent pas, notamment dans le Grésivaudan, Saint-Imier, Montbonneau, Coran, qui sont autour des 10%. Comment on peut les inciter, les pousser, ces communes, à produire du logement social? Parce que visiblement, il y a un vrai problème là-dessus.
Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tension sur le marché, mais il y a aussi le fait qu'il y a une paupérisation des locataires du parc HLM, donc qui restent longtemps dans les logements et qui ne les libèrent pas pour partir. On parle souvent du parcours résidentiel des ménages. Normalement, on commence à rentrer dans du parc HLM parce qu'en début de vie, on a de petits revenus. Et puis après, si votre situation professionnelle s'améliore, vous sortez, vous achetez, etc.
Là, il n'y a pas de rotation.
Il n'y a pas cette rotation qui se fait. Il y a au contraire même une paupérisation. Il y a aussi une montée en charge des impayés de loyers sur le parc HLM. Donc, il est déjà très, très occupé et capté, ce parc HLM. Mmh. Donc, c'est vrai que pour les nouveaux demandeurs, c'est plus difficile. Et puis, après, il y a on l'a vu, hein, il y a beaucoup de logements HLM qui sortaient en parallèle de la promotion privée. Et donc, du coup, la promotion privée étant arrêtée, il y aura aussi moins de... parce qu'ils achetaient des barres d'immeubles ou des montées d'escalier à la promotion privée. Donc oui, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui de la production, quoi.
Et il y a des lieux de ressources, on n'a pas le temps de les développer, mais on mettra toutes les références sur francebleu.fr, notamment votre site de l'ADIL. Effectivement, j'invite les auditeurs à aller y faire un tour pour avoir tout un tas d'informations sur le logement très rapidement.
Très rapidement, il y a aussi des guichets d'enregistrement de la demande de logement social qui peuvent, en accueillant le demandeur, l'accompagner et l'accompagner sur le fait de bien cibler sa demande. Ça ne sert à rien de faire une demande de T5 sur une commune où il n'y a pas de production de T5, par exemple.
D'accord. Eh ben, on mettra toutes ces références.
Du coup, on a eu un appel là. Donc, vous savez quoi, on va finalement rester pour pouvoir discuter logement et accueillir Brigitte qui nous appelle de Grenoble, parce que l'idée, c'est quand même de vous donner d'abord...
Mieux vaut tard que jamais.
Exactement la parole. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes chez un bailleur social, expliquez-nous un petit peu.
Oui, donc il y a 2 ans, par exemple, on nous a augmenté, après, bien sûr, il y a la régule de charge normale annuelle, mais il nous a augmenté 2 fois les charges.
Donc pas le loyer,
les charges.
Ouais. Non, non, puisque c'est réglementé, ça se verrait s'il augmentait le loyer. Alors pour ce qui concerne l'eau, donc des charges, c'est pareil, l'eau, maintenant, il nous applique un forfait pour l'eau froide, un forfait pour l'eau chaude. Les compteurs ne sont plus relevés. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une dérive si il y a des décisions prises pour que le loyer soit réglementé, encadré, est-ce qu'il y aurait pas encore cette dérive-là pour que quand même le bailleur puisse avoir un petit peu de trésorerie en plus.
Vous craignez que le propriétaire se reporte sur autre chose et notamment les charges.
C'est le cas déjà et je vous dis, je ne suis pas la seule chez le bailleur social à subir des relevés de compteurs, même pas des relevés de compteurs, sur le bordereau de régule de charge. Ce qu'il y a marqué, il y a marqué haut et en dessous, sous le cadre, le tableau normal, il y a un petit tableau et là il y a marqué eau froide, eau chaude, avec un index et qui ne correspond pas du tout parce que moi je relève mon compteur
ce qui devrait être payé en l'occurrence. On va laisser notre invité répondre, Brigitte, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir soulevé ce problème, cette situation. Alors je ne sais pas ce que...
Cécile Martinet-Perinetti, directrice de l'Agence départementale d'information sur le logement, je voyais réagir au témoignage de Brigitte en faisant non de la tête, c'est-à-dire...
Alors là il y a eu un petit mélange sur l'encadrement des loyers en disant ils vont encadrer les loyers, ils vont se reporter sur les charges. Oui. Déjà, l'encadrement des loyers ne concerne que le parc privé et pas le parc public, donc madame ne sera pas concernée. Et pour faire le résumé...
Parce que dans le parc social, les loyers sont déjà modérés,
sont déjà réglementés,
mesurés,
par rapport au mode de financement, etc. Par rapport au parc privé, il n'y aura pas cette dérive possible d'augmenter les charges, puisque les charges, c'est réglementé, il y a un décret qui fixe ce qui est récupérable sur le locataire. Enfin bon, si ça devait être constaté, je ne pense pas que dans les territoires où il y a eu l'encadrement qui a été mis en place, ça a été constaté.
On n'a pas observé de hausse des charges.
Mais les gens peuvent tout à fait venir, par exemple, nous voir, nous, à la DIL, et on leur expliquera que les charges, c'est récupérable, que c'est justifié, etc. Voilà, pour le parc privé, je ne pense pas qu'on ait cette crainte de dérive-là. Pour le parc public, c'est difficile de répondre à madame sans voir ses documents, donc elle peut tout à fait venir.